Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce jeudi 5 février 2015, à la une ce soir.
À la une, Morgane Guériac, lutte contre Boko Haram, rencontre à Yaoundé pour tenter de coordonner les opérations au lendemain de l'attaque meurtrière à Fotokol au Cameroun.
Vers un vrai dialogue démocratique au Gabon, le président reçoit la classe politique après la réhabilitation du grand parti d'opposition Union Nationale.
Je pense que nous sommes en train de mettre en place des signes-là qui doivent nous amener un dialogue.
Dieudonné Minama, un des leaders de la société civile gabonaise.
En Ukraine, John Kerry réaffirme le soutien des États-Unis à Kiev, tout en rappelant la préférence de Washington pour une solution négociée au conflit.
Qui affrontera la Côte d'Ivoire dans la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ? La réponse dans un peu plus de 3 heures après le duel Ghana-Guinée équatoriale. Et bien sûr, on aura la page économique, mais d'abord, le journal.
Il faut dire que la réponse pourrait intervenir un peu plus tôt. Une rencontre cruciale a commencé à Yaoundé pour tenter de coordonner la lutte contre Boko Haram au lendemain de l'attaque meurtrière à Fotokol au Cameroun. On fait le point avec Eddie Isango.
Yaoundé abrite une réunion de 3 jours pour discuter des modalités de la mise en place d'une force africaine de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Peu avant cette rencontre, le ministre camerounais de la Défense, Edgar Aleme Bengo, a précisé que 13 militaires tchadiens, 6 soldats camerounais et 81 civils ont été tués hier durant la contre-attaque des djihadistes à Fotokol. À la demande du président Mahamadou Issoufou, le Parlement du Niger doit voter lundi à Niamey l'envoi des troupes nigériennes au Nigeria pour aller combattre les djihadistes. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur le nombre de soldats déployés par le Niger ni la date de leur déploiement. Depuis lundi, 400 à 500 véhicules de l'armée tchadienne, dont des tanks, ont pris position entre Momori et Bosso, dans l'extrême sud du Niger, où une petite rivière, la Kamadougou-Yobé, sert de frontière avec le Nigeria. En face du côté nigérian, Boko Haram avait pris contrôle des Malam Fatori et des Damasak, deux bourgades bombardées la semaine dernière par l'armée tchadienne, ce qui pourrait annoncer l'ouverture imminente d'un second front au Nigeria.
Au Burkina Faso, la grogne des soldats du régiment de sécurité présidentielle fait encore l'actualité. Notre correspondant Zoumana Wonogo nous parle des mesures présidentielles pour l'avenir, du soutien des Nations Unies et de la mobilisation de la société civile.
Après le mouvement d'humeur de la garde de sécurité présidentielle qui a secoué la transition burkinabé, des mesures ont été prises par le président Michel Kafando avec la création d'une commission qui va se pencher sur le rôle futur et le fonctionnement de ce régiment de sécurité. Pour ce faire, le président de la transition a instruit son premier ministre pour organiser des réunions avec les différents chefs militaires afin de pousser plus loin les concertations pour sortir de la crise. Les organisations de la société civile de leur côté sont à pied d'œuvre pour soutenir la transition. Elles ont organisé ce jour même un rassemblement à la place de la Révolution, suivi d'une conférence de presse qui invite les populations à sortir massivement le samedi prochain pour un meeting de soutien à la transition. Il faut souligner que tout cela a pour base le soutien exprimé hier par Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires politiques après son audience avec le président de la transition. Le diplomate onusien a été un peu plus clair. Il a dit « La communauté internationale ne tolérera aucune entrave à la transition ». Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, les autorités ne remplaceront pas les deux généraux accusés de violation des droits de l'homme, jugés indésirables par la mission onusienne RDC, la MONUSCO. Ils ont été chargés de lutter contre les rebelles hutus rwandais des FDLR. La MONUSCO menace donc de retirer son soutien à l'opération. Mais pour le gouvernement, il faut faire l'objet d'une condamnation par la justice militaire pour être écarté du commandement, indique l'AFP.
Bilan des manifestations contre la loi électorale en RDC le mois dernier. 27 personnes ont été tuées, estime le gouvernement. On compte 23 morts à Kinshasa et 4 à Goma, dont 3 enfants. 2 policiers figurent aussi parmi les victimes. En revanche, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et Human Rights Watch font état d'une quarantaine de morts.
Mauritanie, les élections sénatoriales partielles seront reportées à une date non déterminée. Le vote était initialement prévu pour le mois prochain, mais le gouvernement espère que ce décalage permettra un dialogue avec l'opposition qui menace de boycotter le scrutin.
Attaque contre un champ pétrolier d'Al Mabrouk dans le centre de la Libye. 10 Libyens et un Nigérien ont été tués mardi soir, indique le gouvernement parallèle à Tripoli, cité par l'AFP. 3 Philippins seraient portés disparus. Les assaillants ont pillé ce champ pétrolier avant de repartir avec des véhicules et des provisions.
Au Soudan, une coalition de l'opposition incluant des partis, des groupes armés et des organisations de la société civile lance une campagne de boycott des élections générales prévues en avril prochain et qui devrait maintenir au pouvoir le général Omar Hassan al-Béchir. Claire Morin-Gibourg.
La campagne de boycott des élections soudanaises a été lancée hier soir à Omdurman, la ville qui fait face à Khartoum, la capitale, sur la rive ouest du Nil. Un millier de personnes se sont rassemblées au siège du grand parti Oumma à l'appel d'une coalition de petits partis d'opposition, d'organisations de la société civile et du FRS, le Front révolutionnaire du Soudan. Réclamant le départ du régime Béchir au pouvoir depuis 25 ans, la campagne de boycott a été baptisé « Dégage » en référence au slogan utilisé dans les révoltes du printemps arabe pour réclamer le départ des dictateurs. Les participants à la réunion de mercredi ont signé la pétition en criant « Liberté, paix, justice ». Les forces de sécurité étaient présentes sur les lieux mais ne sont pas intervenues. La semaine dernière, la commission électorale soudanaise a annoncé avoir reçu la candidature de 14 personnes qui vont affronter le général Omar el-Béchir à la prochaine présidentielle. Âgé de 71 ans, le général Béchir, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, part largement favori.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite à Kiev, le secrétaire d'État américain John Kerry a prévenu que les États-Unis ne fermeraient pas les yeux sur la présence de chars et soldats russes aux côtés des rebelles séparatistes. On fait le point avec Camille Grosdidier.
Personne ne cherche à entrer en conflit avec la Russie, a fait valoir John Kerry lors d'un point de presse à Kiev, en compagnie du président ukrainien Petro Poroshenko. Mais s'il privilégie une solution diplomatique à la crise dans l'est de l'Ukraine, les États-Unis n'ont pas l'intention de tolérer les incursions transfrontalières. M. Kerry a appelé Moscou à cesser de soutenir les séparatistes et à les amener à la table des négociations. Le secrétaire d'État n'a pas évoqué la question d'éventuelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. Toujours à l'étude, des préoccupations persistent quant à la capacité des forces ukrainiennes de manier de telles armes, a-t-il noté. Par ailleurs, un haut responsable du département d'État a annoncé que les États-Unis vont fournir à Kiev une aide supplémentaire de 16,4 millions de dollars pour aider les civils affectés par les combats entre l'armée et les rebelles.
La branche d'Al-Qaïda au Yémen confirme la mort d'un de ses principaux commandants dans une frappe de drone des États-Unis. Harith al-Nadari et 3 autres militants ont été tués le 31 janvier alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule dans la province méridionale de Chabwa, a déclaré le groupe sur son compte Twitter. Conseiller pour les affaires juridiques et religieuses, Nadari est apparu récemment sur une vidéo faisant l'éloge de l'attaque terroriste qui a fait 12 morts à Paris. Al-Qaïda au Yémen a revendiqué la responsabilité de cette attaque et promis d'en mener d'autres.
Entre-temps, la crise politique perdure à Sanaa, où des tractations devaient reprendre ce soir, selon le bureau de l'émissaire de l'ONU cité par l'AFP. La milice chiite, qui contrôle la capitale yéménite depuis septembre, a été contraint le président et le cabinet à la démission, a demandé à la classe politique de s'entendre sur une sortie de crise. Cependant, les partis non alliés aux rebelles houthis n'arrivent pas à forger un accord.
Le bilan de l'accident d'avion d'hier à Taipei est passé de 23 à 31 morts et 12 personnes portées disparues. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent, a dit un responsable taïwanais.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif auront des pourparlers samedi à Munich autour du programme nucléaire de l'Iran.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique. Les éléphants sont en finale, les léopards rentrent à Kinshasa après le match pour la troisième place. La Côte d'Ivoire a donc réussi son pari hier soir, se qualifier pour sa troisième finale sur les six dernières Coupes d'Afrique des Nations. Yaya Touré, capitaine décrié, a même ouvert le score avant que Mbokani n'égalise sur pénalty. Gervignon et Cano ont permis aux éléphants de l'emporter 3-1. Les Congolais auraient pu espérer mieux, mais trop brouillon dans le dernier geste. Compte rendu à Bata de Thierry Kamboundi.
La déception se lisait sur tous les visages des léopards de la République démocratique du Congo à leur sortie du vestiaire. Youssouf Moulumbu, l'un des rares à s'arrêter en zone mixte, explique cette défaite par des erreurs individuelles commises par ses coéquipiers.
On a bien entamé le match, on a concédé un but, après on est revenu à la marque. Et malheureusement, sur des erreurs bêtes, on a concédé un deuxième but, et c'est ce qui nous a un peu tués. On n'a pas démérité, je dirais. Et donc, voilà pourquoi on est un peu déçus. Voilà, mais on a match samedi. On va se concentrer sur le match de samedi. Et puis, on verra bien.
Côté ivoirien, l'attaquant Gervais Yao Kouassi Di Gervinho, désigné homme du match, souligne l'efficacité de sa sélection qui a primé sur le beau jeu.
On avait une bonne équipe en face de nous, avec des joueurs de beaucoup de qualités techniques comme la nôtre. Mais on a su garder notre front sans froid. On a profité des occasions qu'on a eues. On a été efficace. Je pense que ces gens de match se gagnent. Peu importe la manière, il faut juste gagner. C'est ce qu'on a fait.
Wilfried Bonny, passeur décisif sur le premier et le deuxième but des éléphants, pense lui désormais à gagner la coupe et la ramener à Abidjan. Bata, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Immense désillusion évidemment pour les Congolais qui jouaient leur première demi-finale depuis 1998. L'aventure s'arrête là pour les Léopards, emmenés par un excellent Florent Ibenge, le sélectionneur qui était forcément triste hier après le match.
On a entamé ce match-là avec l'envie de gagner, je crois qu'on l'a vu. Malheureusement, on a encaissé un but encore une fois, et puis après on a réagi, on a bien réagi pour revenir. Et il y a une erreur individuelle qui nous plante un petit peu. On arrive en seconde à la mi-temps avec un score très heureux pour la Côte d'Ivoire. Comme cette équipe, elle a changé, elle joue maintenant défensivement, elle joue la contre-attaque. Donc c'était vraiment le scénario idéal pour eux. Ils ont pu camper sur leur position et essayer de nous surprendre sur les contre-attaques. Ils ont été patients, ils nous ont eu sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Et après, c'était compliqué pour revenir. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher vraiment à mes joueurs aujourd'hui.
Florent Ibenge, le sélectionneur de la RDC. Après des éliminatoires ternes et un début de compétition poussif, la Côte d'Ivoire, entraînée par Hervé Renard, a donc réussi son pari. L'ancien sélectionneur de la Zambie a réussi à imposer son autorité sur un groupe à forte personnalité. On écoute Hervé Renard.
Ça s'est joué sur la discipline tactique en deuxième mi-temps et sur le talent de joueurs de la Côte d'Ivoire. Quand on a Yaya Touré qui met une frappe comme ça en première mi-temps, quand on a Gervinho qui accélère, c'est des atouts qui sont fantastiques. Donc voilà, mais faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est la mission qu'on m'a donnée, on me l'a donnée sur un peu plus de temps. Donc si je peux la faire en 6 mois, ça sera quelque chose de fantastique pour la Côte d'Ivoire. Depuis 1992, le public et tous les fans ivoiriens attendent ça, donc... On n'a pas le droit de ne pas leur donner.
Qu'est-ce qui, selon vous, a manqué à la RDC aujourd'hui ?
Il y avait peut-être un peu de fatigue de leur côté, mais ils nous ont posé quelques problèmes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus disciplinés et on a réussi à faire la différence. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts en deuxième mi-temps.
Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Aujourd'hui à Malabo, coup d'envoi à 19h, temps universel de l'autre demi-finale entre le Ghana et la Guinée équatoriale. En conférence de presse, la star du Ghana, André Ayou, a dit espérer que tout se passe bien avec les arbitres. Cette demi-finale, où le Ghana est archi-favori, c'est le coup de sifflet de Jules Valentangwe.
La seconde demi-finale apparaît à première vue comme un combat de David et de Goliath. Le Ghana, qui est progressivement monté en puissance depuis la défaite initiale contre le Sénégal, est une des 3 équipes avec l'Algérie et la Côte d'Ivoire à avoir présenté une sélection équilibrée sur toutes les lignes et capable de s'adapter à toutes les situations. Quand le Ghana est dans de telles dispositions, il est difficile à arrêter, d'autant plus que le rival congénital, la Côte d'Ivoire, a réussi à passer le dernier palier avant une finale que les Black Stars considèrent déjà comme une revanche de celle de 1992 qu'ils avaient perdu après une interminable série de tirs au but. Pour les supporters des Black Stars, l'histoire doit se répéter, mais avec un autre dénouement, et tant pis pour la Guinée équatoriale. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Bonsoir.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le FMI offre 100 millions de dollars d'allègement de dette aux pays frappés par Ebola.
Les bénéficiaires de cet allègement sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les trois pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, afin de réduire le fardeau de leur dette vis-à-vis de l'institution. Le FMI a par ailleurs ajouté qu'il pourrait approuver un prêt à taux zéro de 160 millions de dollars à ces pays, qui s'ajouterait donc aux 130 millions déjà déboursés en septembre.
Ça correspond à peu près à 40% des besoins budgétaires du Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. Mais on espère que d'autres pays, d'autres donateurs vont également se rallier à cet effort que le Fonds monétaire international a décidé aujourd'hui.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI.
Mauritanie, la production rizicole couvre 69% des besoins du pays.
La nouvelle a été annoncée par le ministre mauritanien de l'Agriculture, Ahmed Houlm Barek Houlm Mohamed El Mokhtar. Cette production a atteint 202 000 tonnes grâce à l'exploitation de 41 000 hectares au cours de la campagne agricole 2013-2014. C'est ce qu'a indiqué le ministre dans un point de presse donné mercredi soir à Nouakchott. Il a ajouté que la production rizicole nationale devrait couvrir 90% des besoins de la population mauritanienne en 2015.
Un nouveau président pour la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'UMOA.
C'est un Ivoirien, Souleymane Diarra Souba, qui a été élu président de la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Il va diriger pour 2 ans FAFBEF UMOA, où il remplace le Burkinabé Pierre Zerbo, directeur général de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso. Par ailleurs, les ambitions du nouveau président figurent le relèvement du taux de bancarisation actuellement à moins de 10% dans la zone UMOA.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon. Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite une réunion sur le déploiement d'une force africaine de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Pendant 3 jours, des dizaines d'experts africains et occidentaux vont discuter des modalités de la mise en place de cette force. Alors, quelle sera son efficacité face à la puissance de feu des djihadistes nigérians? Idriss Fall a joint Gouibaï Gatama, directeur du journal L'Œil du Sahel.
Si ces 7500 hommes sont des combattants qui vont passer à l'offensive et qui ne vont pas rester sur la défensive comme l'ont été l'armée nigériane et l'armée camerounaise pendant un certain temps, je pense qu'on peut évoluer sur le plan militaire. S'ils ont la même ténacité que les militaires tchadiens, on peut avoir des résultats, mais sinon, je crains qu'on ait des forces qui soient stationnées et qui n'apportent pas de grands résultats.
En fait, quels sont les pays qui pourraient contribuer et pouvoir aider à changer la donne? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali.
Les pays sont quasiment en difficulté sur le plan militaire. C'est un problème de mise à niveau. Des armées de la sous-région qui ont été bâties beaucoup plus pour tenir en haleine la population que pour faire une guerre. Et encore mieux pour résister à une guerre asymétrique comme l'impose Boko Haram. Je pense que dans la sous-région, en dehors des armées camerounaises et tchadiennes et nigériennes, je ne peux pas remettre en doute la valeur des armées de tel ou tel autre pays.
Tout ceci, ça coûte de l'argent. L'argent viendrait d'où?
Si la communauté internationale n'aide pas, il va de soi que cette force sera sur le papier et ne va pas se répercuter sur le terrain. Mais dans quelles conditions cette force intervient? Il faut bien voir que là, il y a une poussée, certes, de l'armée tchadienne dans le Borno State, mais il faut que cette armée tchadienne soit épaulée par d'autres armées qui aient également la même baraka, qui disposent de la même motivation, qui disposent des matériels adéquats, qui soient soutenus par un renseignement aérien et terrestre. Et ça va prendre du temps pour qu'on puisse mettre tout ça en place. D'ici à 2 mois, l'armée tchadienne devra encore faire le travail à l'intérieur du Nigeria et que l'armée camerounaise puisse s'assurer que la pression de l'armée tchadienne à l'intérieur du Nigeria n'oblige pas les combattants de Boko Haram à s'infiltrer au Cameroun.
Mais on a vu ce qui s'est passé donc à Fotokol.
Bien sûr, l'armée tchadienne a avancé beaucoup, beaucoup trop vite. beaucoup trop vite et les arrières n'avaient pas été sécurisés. L'armée tchadienne a traversé Gambarou pour aller en Gala et elle est passée. Alors que les combattants de Boko Haram s'étaient planqués, les Camerounais ont levé leur dispositif sur le pont du fleuve El Bayit qui sépare les deux pays et qui est jusqu'ici le verrou stratégique de l'armée camerounaise contre Boko Haram. À partir du moment où ce dispositif a été levé et que les gens se sont dit, puisque les Tchadiens avancent derrière eux, il n'y a rien, il n'y a plus que des ratissages à faire, c'est arrivé ainsi.
Guy Baye Gatama, directeur du journal L'Œil du Sahel.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la double offensive camerouno-tchadienne contre Boko Haram. L'Union africaine, elle, veut une force régionale contre le groupe islamiste nigérian. Toute cette mobilisation peut-elle arrêter Boko Haram? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
L'actualité au Gabon reste dominée par la rencontre d'hier entre le président Ali Bongo Ondimba et les leaders des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Hier également, le parti politique d'opposition, l'Union nationale, a été de nouveau autorisé à fonctionner après sa dissolution en 2011. Pour un éclairage sur ces développements, Timothée Donangmaï a contacté Dieudonné Minlama Mintogo, président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon.
Depuis un bon bout de temps, vous savez que notre pays vit une crise sociopolitique et que beaucoup de personnes se sont levées pour demander l'ouverture d'un dialogue. Nous, l'Observatoire l'a fait, la communauté internationale aussi, les confessions religieuses. Et c'est la suite à cela, je crois qu'il fallait régler un certain nombre de problèmes depuis à l'heure pour éventuellement préparer un dialogue. Pour hier, la réunion entre le président et certaines parties de l'opposition n'était pas là. Donc, ça montre que les lignes sont en train de bouger parce que hier aussi, il y a l'Union nationale qui a été réhabilitée. Donc, je pense que nous sommes en train de mettre en place des dialogues qui doivent nous amener à un dialogue.
Le communiqué annonçant la rencontre d'hier a précisé qu'il s'agissait uniquement des partis officiellement reconnus de la majorité et de l'opposition. Que signifie cette précision?
Encore, l'Union nationale n'était pas encore réhabilitée. Et je pense qu'il y a aussi un autre problème, parce qu'au niveau de l'opposition gabonaise, il y a des nouvelles personnalités qui sont là, comme Jean Ping, comme Adia Sidoro, comme Pierre Amougemba, bon, qui, pour le moment, n'ont pas de parti politique. Je crois que c'était un peu ça, ce qui fait qu'en réalité, le Front uni de l'opposition ne faisait pas partie de la rencontre d'hier. Donc je crois que c'était un peu restrictif et peut-être la prochaine rencontre sera beaucoup plus globale.
Peut-on parler d'une nouvelle donne politique au Gabon aujourd'hui?
Le Gabon va forcément aller vers une nouvelle donne politique. Déjà, vous savez que le fait que l'Union nationale ait été mentalement dissous causait déjà un problème politique énorme. L'arrivée de l'Union nationale va forcément créer un rééquilibrage politique au niveau de l'échiquier. Donc, il y aura forcément des mouvements qui vont s'opérer dans les jours qui suivent pour une réorganisation de l'espace politique et une nouvelle donne politique au Gabon. Donc, je pense qu'à ce niveau, la vie nationale constitue déjà un élément majeur au niveau de la scène politique. Maintenant, la suite, c'est qu'on va voir quelles vont être les positions des uns et des autres, déjà au niveau de l'opposition. Ceux qui sont sortis, qui n'ont pas de parti, est-ce qu'ils vont aider l'Union nationale, oui ou non? Est-ce qu'ils vont continuer à créer de nouvelles formations politiques? On ne sait pas. Mais l'ancrage de l'opposition risque de se faire autour de l'Union nationale. Et maintenant, la suite, c'est qu'on va vers un dialogue. Et après le dialogue, il y aura forcément une nouvelle configuration politique au Gabon.
Dieudonné Minlama, président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon, joint à Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La majorité des Africains continuent d'acheter leur nourriture dans des marchés en plein air, chaotiques, qui feraient frémir nombre d'Occidentaux soucieux des pratiques hygiéniques. Mais une nouvelle étude de l'International Livestock Research Institute, basée à Nairobi, devrait les rassurer. Michel Joseph explique.
L'International Livestock Research Institute, en français l'Institut international de recherche sur le bétail, a fait une découverte surprenante. Nombre de marchandises trouvées sur ces marchés informels sont tout aussi sûres ou fraîches que les produits écoulés par les supermarchés de style occidental qui se répandent à travers le continent africain. Jusqu'à 95% de la nourriture vendue en Afrique transite par des marchés en plein air. Mais un nombre croissant de supermarchés leur font concurrence, attirant les acheteurs dans leurs belles allées brillamment éclairées pour leurs produits alimentaires sous emballage en plastique. L'Institut international de recherche sur l'élevage s'est penché sur des marchés informels dans 8 pays africains pour découvrir que, s'agissant de la sécurité alimentaire et de la fraîcheur des produits, les apparences sont plutôt trompeuses.
Juste parce qu'un produit porte une étiquette ou qu'il est présenté dans un environnement lumineux, cela ne signifie pas nécessairement qu'on peut l'acheter en toute sécurité.
Elle évoque des cas à Nairobi où des vendeurs informels ont insisté sur le fait qu'ils prennent des précautions sanitaires avant de vendre leurs marchandises.
Je dois m'assurer que l'eau bouillie et la personne qui procède à la traite se lavent les mains avant de le faire.
Les vendeurs des marchés en plein air prennent fréquemment d'autres mesures.
Quand je reçois le lait, je l'ai bouilli d'abord pour m'assurer de sa fraîcheur. On voit bien qu'il n'y a pas de supermarché, donc. Sans les marchés informels, où est-ce que les gens pourraient se ravitailler?
Côté acheteur, on fait remarquer que les prix des denrées vendues dans les marchés en plein air sont inférieurs à ceux pratiqués par les supermarchés. Et puis, les marchandises sont plus fraîches. À noter qu'aux États-Unis, les marchés en plein air ont repris leur essor au cours des 20 dernières années, un nombre croissant d'Américains privilégiant les produits locaux jugés plus naturels.
Salut les amis, ici Roger Moumtou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, nous aurons l'artiste Tony Saad.
Salut tout le monde, c'est Tony Saad. Retrouvez-moi ce soir dans RM Show sur VOA Afrique de Roger Moumtou à 20h précise.
Mais vous avez tous entendu, c'est Tony Saad avec nous ce soir. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité. Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite une réunion sur le déploiement d'une force africaine de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Pendant 3 jours, des dizaines d'experts africains et occidentaux vont discuter des modalités de la mise en place de cette force.
Bilan des manifestations contre la loi électorale en RDC le mois dernier. 27 personnes, dit le gouvernement. Cependant, des organisations de la société civile et d'autres ONG parlent d'une quarantaine de morts.
La branche d'Al-Qaïda au Yémen confirme la mort d'un de ses principaux chefs dans une frappe de drone des États-Unis, Harith Nadari, et 3 autres militants ont été tués le 31 janvier dernier.
Le bilan de l'accident d'avion d'hier à Taipei est passé de 23 à 31 morts et 12 personnes sont portées disparues. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif auront des pourparlers samedi à Munich pour un programme nucléaire de l'Iran. Téhéran et le groupe 5+1 tentent de conclure un accord cadre avant le 24 mars et un accord final d'ici le 1er juillet.
La fête, c'est à Malabo en Guinée équatoriale. Ghana et l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. 30 degrés centigrades là-bas, Morgane, à Malabo.
Merci pour ces précisions. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, la présentation Morgane Gaillec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.